Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de bonne humeur à la pointe de l'actu. Et aussi, c'est important car nous avons eu des consignes en ce sens, de la modernité. En effet, afin de séduire un public plus jeune, nous avons reçu pour consigne de faire bien attention à paraître nous-mêmes jeunes, par nos références, par nos choix musicaux. Un message reçu 5 sur 5 par Céline Dacosta, comme on a pu le constater hier.
Are you ready?
Ah ouais, wouh!
Là, j'en vais la plus belle. Celle qui en sorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux.
Oh, j'adore. Je l'adore.
Moi aussi. Heureusement, debout les copains, c'est aussi l'érudition de Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin rebondit sur l'incroyable histoire de ce fourgon blindé qui s'était volatilisé avec plus de 3 millions d'euros avant d'être retrouvé hier pour évoquer l'évolution historique d'une profession à part, convoyeur de fonds.
Merci d'écouter Europe 1 ce mercredi 13 février. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 13 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Agnès Buzyn présente son projet de loi santé ce matin en Conseil des ministres. Parmi les nouveautés, le développement des maisons de santé pour pallier aux déserts médicaux. Le convoyeur de fonds disparu lundi à Aubervilliers avec 3 millions d'euros a passé la nuit en garde à vue comme 2 autres personnes interpellées hier à Amiens en même temps que lui. Vous avez pu le vivre en direct sur Europe 1, la belle victoire du PSG hier soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 2-0 contre Manchester United.
Europe 1.
Le gouvernement va-t-il réussir à réduire les déserts médicaux? Agnès Buzyn présente en Conseil des ministres le projet de loi santé avec plusieurs volets, dont le développement des maisons de santé. Objectif, favoriser l'accès aux soins partout. En Indre-et-Loire, la commune d'Avoine, près de Chinon, est pionnière en la matière. Ça fait 9 ans qu'un établissement du genre existe. Olivier Samin.
Quand vous arrivez à Avoine, impossible de la manquer. 1000 mètres carrés de plein pied dans le centre du bourg. À l'intérieur, médecins, kinés, infirmières, orthophonistes, diététiciennes, podologues. Au total, 31 professionnels de santé réunis sous le même toit qui accueillent chaque jour 120 à 200 patients. Pour faire face à cet afflux, il a fallu réorganiser le travail. Faire en sorte notamment que les médecins délèguent une partie de leurs tâches, pesée, mesure de la tension, récupération des examens biologiques, gestion de la carte vitale, pour pouvoir se concentrer sur le cœur de leur métier, le diagnostic. Résultat, comme le dit Alain Giacomino, l'un des 2 médecins fondateurs, la maison de santé a pu absorber sans encombre la clientèle des médecins des environs qui sont partis à la retraite.
Il y a 4 ans, j'avais 800 à 900 patients et aujourd'hui, j'ai en charge 1400 à 1500 patients avec la même qualité de soins et de suivi.
À la maison de santé d'Avoine, c'est une secrétaire médicale qui allège le travail des médecins pour la partie administrative. Quant aux examens de base, ils sont assurés par des externes de la faculté de Tours. Mais bientôt, ces tâches seront dévolues aux assistants médicaux, ce nouveau métier que le gouvernement veut créer pour libérer du temps médical aux médecins.
Olivier Samin, et dans le projet de loi figure aussi la suppression du numerus clausus, mais aussi la transformation des hôpitaux de proximité.
Sa cavale aura duré moins de 48 heures. Le convoyeur de fonds d'Aubervilliers a passé la nuit en garde à vue.
L'homme de 27 ans a été interpellé hier après-midi à Amiens par la PJ de Lille et leurs collègues de la BRI. Le butin de près de 3 millions d'euros a aussi été en grande partie retrouvé. Le comptage était toujours en cours hier soir. 2 autres personnes ont été arrêtées. Le suspect, lorsqu'il habitait à Amiens, pratiquait la boxe thaï. Son ancien entraîneur n'arrive pas à comprendre ce qui a pu lui passer par la tête.
C'était un élève comme tout le monde, quoi. Sympathique, motivé. Je suis encore sur le cul, quoi. Je sais pas, j'ai du mal à concevoir.
Il y a quelque chose qui a dû se passer dans sa tête.
Je saurais pas vous dire. Ça reflète pas du tout de la personne, quoi.
Ça vous rend triste, on a l'impression.
Ouais, tout à fait, ouais. Ça me rend triste parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un de bien, quoi. Voilà, quoi, il avait un bon esprit, un bon fond.
Et vous demandez comment il a pu basculer comme
ça ? Exactement, ouais. Ouais, je pense que c'est une erreur de parcours, c'est clair. C'est incompréhensible.
Didier Jumel avec Lionel Gougelot pour Europe 1. Édouard Philippe a décerné hier soir le prix Ilan Halimi, récompense pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, remporté par le collège Claude Pouilly à Dijon. La maman d'Ilan Halimi était présente et elle a dit espérer que les décisions adéquates soient prises pour endiguer l'antisémitisme. Notez que Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, Germain propose que le visage de Simone Veil serve de modèle pour les prochains bus de Marianne. Elle a écrit un courrier en ce sens à Emmanuel Macron. La Confédération des petites et moyennes entreprises affirme que le mouvement des Gilets jaunes a provoqué une catastrophe pour les petits commerçants. 70 000 personnes en activité partielle. La CPME qui est reçue aujourd'hui à Bercy par le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
La taxe carbone qui avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes va-t-elle faire son retour ?
Dans le Figaro, un groupe d'élus de tous bords appelle à la rétablir mais à débattre de ses modalités. Parmi les signataires, Mathieu Orphelin qui vient de quitter La République En Marche.
Il faut qu'on parle de la fiscalité écologique dans tous ses aspects, y compris les aspects positifs, comment on arrive à accompagner les Français mieux qu'aujourd'hui dans cette transition. C'est effectivement quelque chose qui a manqué, quelque chose sur lequel on a fait des choses mais pas suffisamment. C'est un sujet qui doit dépasser tous les clivages. Ce n'est pas les solutions des uns et des autres, ça doit être co-construit avec les syndicats, avec les associations de consommateurs, avec les citoyens, avec tout le monde. Il faut imaginer cette fiscalité écologique juste socialement. Ce n'est pas une taxe en plus, ça ne peut pas être ça, ça l'a montré. Une nouvelle façon de voir globalement la fiscalité, les incitations et surtout les accompagnements à changer.
Mathieu Orphelin avec Adrien Becht pour Europe 1. Direction Marseille et la désillusion pour les écoles vétustes de la ville. Un plan d'1 milliard d'euros pour réaliser des travaux vient d'être annulé par la justice administrative. Nathalie Chevance.
Démolir 32 écoles de type Payron, en reconstruire 28 et bâtir 6 groupes scolaires, telle était l'ambition du maire. Sauf que pour la justice, le montage financier imaginé avec les géants du BTP est trop risqué, trop coûteux. Retour donc à la case départ, en associant cette fois tous les acteurs. C'est le souhait de Pierre-Marie Ganosi, secrétaire départemental de la FSU.
Monsieur Gaudin est obligé de manger son chapeau. Nous disons à la mairie, on vous propose de se mettre tous ensemble autour d'une table, syndicats enseignants, parents d'élèves, artisans, architectes, et on fait en sorte de réfléchir à comment faire pour que les élèves de Marseille puissent avoir un enseignement de qualité dans des locaux qui sont à minimum de sécurité. Nous tendons la main à Monsieur Gaudin, soit il la mord, soit il la saisit et peut sortir par le haut de cette histoire.
Car le collectif réclame aussi de toute urgence un audit sur les 444 écoles de Marseille. Question de volonté politique, fustige l'élu communiste Jean-Marc Coppola.
C'est un revers cinglant, c'est un désaveu. Il paye là le fait de ne pas s'être occupé des écoles primaires depuis 1995. Il faut réfléchir maintenant à tourner la page et changer de politique.
Mais le maire reste droit dans ses bottes, annonce qu'il fait appel, avec le risque de laisser traîner le dossier jusqu'aux prochaines municipales. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Le corps d'Emiliano Sala va être rapatrié vendredi en Argentine. L'enterrement du footballeur pourrait avoir lieu samedi. Et pour l'instant, toujours aucune trace du corps du pilote David Ibbotson.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Une femme décidément courtisée de tous les côtés. Par son mari à la maison, par moi au bureau. Et même désormais par Nikos Aliagas durant le journal de 7h30 qu'elle présente aussi avec le même brio et visiblement le même charme irrésistible. Nikos n'a pas résisté, mais contrairement à Bibi, lui, il s'est pris un vent.
Bonjour Céline, vous êtes belle en noir.
Ah ouais.
Bam ! Et dans tes dents, Nikos.
Europe 1.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire ce matin, alors que le convoyeur de fonds qui avait disparu avec plus de 3 millions d'euros a finalement été retrouvé hier. Fabrice revient sur l'évolution du métier de convoyeur de fonds à travers l'histoire.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et oui, grâce à Rénoval et à vous Céline, il fait beau aujourd'hui, soleil toute la journée.
Merci Rénoval. Oui, non, soleil toute la journée, ça va durer, hein, puisque jusqu'à la fin de la semaine au moins, on aura du soleil. Soleil après dissipation tout de même de quelques brouillards ce matin, parfois givrant dans le nord-est. Hein, c'est le soleil donc qui va briller. Les températures encore fraîches ce matin, elles seront beaucoup plus douces cet après-midi avec une moyenne de 9 à 16 degrés du nord au sud. Et puis dimanche, 14 à 15 degrés, ça c'est la moyenne pour l'après-midi, pareil du nord au sud.
Merci Céline. Eva, c'est la journée internationale de la radio.
Exactement, donc on a demandé à nos auditeurs depuis ce matin, 5h, un souvenir qui est lié à Europe 1. On a eu beaucoup, beaucoup de messages comme celui de Barbara qui nous dit « Je vous écoute depuis quelques années car je ne veux pas perdre mon français en habitant aux Pays-Bas depuis 10 ans. » Ça ne parle pas beaucoup français dans la rue. Exactement. Daniel nous dit « Je me souviens du multiplex d'Europe 1 le vendredi soir dans les années 80-90 avec Eugène Saccomano, ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir Canal+, mettez-le son radio et regardez le match encrypté. » Et Patricia, voilà, et Patricia enfin qui dit « Quand j'étais petite chez ma grand-mère dans le jardin, on écoutait Pierre Belmar et ses histoires en début d'après-midi, c'est ma Madeleine de Proust. Encore merci pour tous vos messages. Vous continuez sur Europe 1 avec le hashtag sur Twitter avec le hashtag Europe 1. »
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Pour lui, chaque journal des sports est un combat. Il entre dans ce studio comme on monte sur un ring. Il prend d'ailleurs les mêmes précautions que les boxeurs, replace son micro en même temps que sa coquille. Sa devise, vous la connaissez.
Engagement, endurance, puissance et vigueur.
Voici le journal des sports du vigoureux Jérôme Lacroix. À la une du JDS GG, Paris a fait sa loi.
La loi du milieu, de la défense, de l'attaque. Les footballeurs du PSG ont éteint la lumière à tous les étages d'Old Trafford hier soir, supérieur dans tous les secteurs et porté par plus de 3600 supporters. Ils s'imposent à Manchester United, bastion du foot européen, 2-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'est un grand coup hein, parce qu'on leur prédisait 1000 souffrances sans Neymar ni Cavani blessés. Absence palliée par une grande prestation collective, bloc équipe, dont a émergé notamment l'Argentin Di Maria, double passeur décisif pour Kylian Mbappé à l'heure de jeu, 14e but en Ligue des Champions, et 7 minutes plus tôt pour un autre champion du monde français, le défenseur Presnel Kimpembe. Le vertige pour son premier but en professionnel.
C'est fou, c'est incroyable, surtout dans un stade pareil et dans une ambiance pareille avec nos supporters marqués devant le COP, c'est incroyable. Voilà, j'ai pas l'habitude et je savais pas c'était quoi la sensation. Ce soir, je la ressens et voilà, avec la victoire au bout, c'est le plus important.
Et ils peuvent chanter, les fans parisiens, parce que la victoire, elle est historique. Hein. C'est la toute première d'un club français à Manchester contre United en 15 confrontations.
Alors maintenant, Jérôme, on se démotive pas, on se déconcentre pas.
Exactement.
Match retour le 6 mars.
Au Parc des Princes, les Mancuniens seront privés, qui plus est, de Paul Pogba, très bon en ce moment, mais maîtrisé hier par les milieux parisiens Marquinhos et Verratti. Pogba exclu hier sur carton rouge, il sera donc suspendu au match retour. Deux buts d'avance, c'est confortable, voire très confortable. L'histoire des Coupes d'Europe promet d'ailleurs 97% de chance aux Parisiens de voir les quarts de finale, mais n'en parlez surtout pas à l'expérimenté capitaine du PSG, le Brésilien Thiago Silva.
Ça semble que c'est déjà fini, 2-0. Les gens vont dire que c'est facile, mais nous qui jouons au foot et au quotidien, on sait que c'est pas facile du tout. Il faut gagner le deuxième match et oublier tout ce qui s'est passé les autres années.
Et c'est là qu'on est mauvaise langue et qu'on rappelle 2017, victoire 4-0 à l'aller et défaite 6-1 au retour. La remontada et l'élimination à Barcelone. Match
c'était
retour.
Fou, ça.
Et c'était dingue.
Match c'est retour. Horrible de vous souvenir de ça.
Bah, c'est Thiago Silva lui-même qui le dit à la fin de cette petite.
Non, mais justement, là, ils sont vaccinés.
Espérons. Match retour le 6 mars. Également hier soir, victoire 2-1 de l'AS Rome sur le FC Porto. Aujourd'hui, 21h, Tottenham, Borussia Dortmund et Ajax Amsterdam, Real Madrid. Dans l'actualité sportive également ce matin, du tennis et la victoire de Gaël Monfils hier au tournoi de Rotterdam. Il est au deuxième tour après un succès en deux manches contre le Belge Goffin, 21e mondial. Élimination en revanche de Simon et Herbert.
On finit avec l'histoire du jour.
On voit là que les JO à Paris en 2024 font fulminer. J'ai nommé Luc Besson, le célèbre réalisateur, parce que les locaux de sa société EuropaCorp seront réquisitionnés pendant les Jeux, la cantine du village olympique au siège même de la société. Il y aura aussi des salles d'entraînement à la Cité du cinéma où travaillent certains salariés d'EuropaCorp. Ses employés ne pourront donc pas accéder à leur bureau. Luc Besson réclame 50 millions d'euros d'indemnité.
Ah oui, tout de même, oui. C'était, excusez-moi, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Plus qu'un collègue, un ami. Surtout pour Eva, qu'il connaît depuis près de 7 ans maintenant. Au fait, comment vous étiez rencontrés ?
Par Jackie et Michel.
Oui, oui, on passe à la chronique histoire de Fabrice Dalméda, dont je ne vous demande pas comment vous l'avez rencontré.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Visiblement, ce que j'ai dit est vrai.
Alors, non, personne ne comprend
bonjour,
cette référence, surtout.
Sauf vous. Fabrice, hier, un convoyeur de fonds qui s'était enfoui avec les 3 millions d'euros de son camion a été arrêté. Mais au fait, les attaques de fourgons blindés, c'est une histoire ancienne.
Ça remonte au premier camion blindé, avec un blindage latéral qui a été proposé en 1910 par une firme, la firme Bellamore, aux États-Unis. Parce que les transports étaient de plus en plus fréquents, mais surtout, ils étaient très attaqués. Et au lendemain de la guerre, en 1925, la firme Brinks, toujours aux États-Unis, a conçu un nouveau camion inspiré des véhicules militaires qui ressemblait un peu plus au nôtre. Et 2 ans plus tard déjà, la première attaque d'un fourgon a lieu à 8 km de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Paul Jaworski et son gang ont placé 500 livres de poudre sous la route pour faire exploser le camion. Ils emportent plus de 100 000 $, c'est-à-dire environ 1 300 000 euros actuels.
Et depuis, les attaques se sont multipliées.
Ah oui, alors là, avec toutes sortes de moyens, découpage du blindage, gazage des agents, tir au bazooka, jusqu'à cette attaque dite de la mort. En France, le 10 octobre 1990, à Lantilly, près de Lyon, les braqueurs bloquent le fourgon avec un camion Ben et le défoncent avec un engin de chantier. Aussitôt, ils tirent sur les chauffeurs, ils en tuent un et blessent gravement les deux autres avant de prendre la fuite, mais les mains vides. En fait, les véhicules sont toujours plus solides et les méthodes de transport dissuasives, au point que depuis 10 ans, le nombre d'attaques de fourgons blindés s'est effondré, moins de 5 par an.
C'est ça qui rend plus spectaculaire les vols par les convoyeurs.
Ben oui, elles retiennent davantage d'attention. Et en France, l'affaire Tony Musulin a tout changé. En 2009, ce convoyeur, rappelez-vous, s'était enfui avec plus de 11 millions de butins. Et une partie seulement avait été retrouvée avant son arrestation. Ce personnage et son procès ont défrayé la chronique. Et un film en a été tiré avec François Cluzet dans le rôle-titre. Le vol d'hier illustre donc l'histoire d'un secteur sans cesse modernisé. Mais où l'humain, à l'occasion, peut être faillible.
Eh oui, merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à 6h20, alors qu'aura lieu ce soir à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre la satirique mais salutaire cérémonie des Pics d'Or. Cérémonie récompensant, ironiquement bien sûr, les meilleurs dispositifs anti-SDF de l'année. Vous savez, ces équipements ou éléments de mobilier urbain destinés à éloigner les sans-abri. Nous recevrons Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité, qui rit, mais jaune. Juste avant, je vous propose un interlude musical. Voici Come and Get Your Love, Redbone sur Europe 1.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'infos, de rire et aussi parfois d'indignation. Car oui, dans l'équipe, on n'hésite pas à s'engager, à prendre des positions très fortes, quitte à choquer, quitte à scinder.
La violence, c'est mal.
Oui, bon, enfin, ce matin, on essaiera d'aller un cran plus loin dans l'engagement en soutenant la cérémonie satirique des Pics d'Or. Ce soir, la Fondation Abbé Pierre révèle en effet le palmarès des pires dispositifs anti-SDF recensés dans nos villes en 2018. Vous allez voir, c'est édifiant. On en parle avec Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
Il est 6h18.
Dites-moi, Doris.
Oui, monsieur Potier.
Vous êtes seule. Ça m'inquiète.
J'ai quand même quelques petits rendez-vous.
Mais je veux dire au travail. Ah. Vous êtes seule pour la paye et les RH, seule pour surveiller les évolutions légales. Et si vous absentez, c'est nous qui serons seuls.
On annibélise, monsieur Potier, donc on n'est plus jamais seuls. Leurs juristes nous épaulent, leurs experts nous accompagnent chaque jour, et ils prennent le relais si jamais je m'absente. On est déjà demain, monsieur Potier.
Demain, Doris. J'adhère.
Nibelis, innovation paye et RH. Demandez-nous demain.
Grosse journée aujourd'hui, chef. Pas facile à raser, cette maison.
Quelle maison? On devait détruire une grange.
Ah?
Vous avez assez de mauvaises surprises au travail. Avec la solution Carport Pro de Volkswagen Véhicule Utilitaire, vous n'en aurez que des bonnes. En ce moment, le Caddy Business Line avec véhicule de remplacement, garantie et maintenance inclus, est à 189€ hors taxes par mois, sans apport. Trouvez le vôtre sur lemien.fr.
Location longue durée 36 mois et 45 000 km sur Cadivan Business Line TDI 75 BVM jusqu'au 31 mars 2019, si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Ligue des champions, le PSG a pris une belle option pour les quarts de finale après sa victoire 2-0 hier soir sur la pelouse de Manchester United. 2 buts signés Kimpembe et Mbappé. Le convoyeur de fonds disparu à Aubervilliers lundi a été interpellé à Amiens hier avec une bonne partie des 3 millions d'euros. Il est en garde à vue. 2 autres suspects ont aussi été interpellés. Enfin, l'ancien boxeur Christophe Détinger est aujourd'hui jugé pour l'agression des 2 gendarmes lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris début janvier. Lors de sa comparution immédiate, il avait demandé un délai pour préparer sa défense.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mercredi 13 février. L'actualité, c'est aussi ce soir la remise des Pics d'Or. Une cérémonie satirique qui récompense les pires dispositifs anti-SDF recensés sur le territoire. Bonjour Bruno Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Vous allez vous-même remettre ce soir un de ces Pics d'Or dans la catégorie « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Alors on explique déjà le principe des Pics d'Or parce que évidemment c'est une cérémonie complètement satirique pour dénoncer ces éléments de mobilier urbain qui sont disposés pour empêcher les SDF de s'installer.
Oui, tout à fait. Après les avoir dénoncés l'année dernière, cette année, on va les récompenser. Évidemment, c'est satirique. On va récompenser tous les gens qui ont des initiatives de mobilier anti-SDF, des barreaux, des grillages, des picots sur le sol, une douche automatique contre les SDF dans les porches de garage. Voilà toutes ces mesures qu'il faut impérativement dénoncer.
On se souvient de la polémique l'année dernière, assez vive. Et donc, ce que vous notez, vous, c'est qu'il y a eu un essor de ce nombre de dispositifs?
Ah, ce qui est certain, c'est qu'il y a...
Ça ne s'est pas arrêté après la polémique. On ne les a pas enlevés.
Si on prend l'exemple de la douche, qui avait fait quand même beaucoup de bruit, elle s'est arrêtée pendant 15 jours et puis elle a repris après. C'est très curieux, elle vient de s'arrêter il y a quelques jours.
Ah, étonnamment. Juridiquement, c'est légal d'installer des dispositifs anti-SDF?
Écoutez, oui, c'est légal, puisqu'il y a même des villes qui font des arrêtés anti-mendicité dans les nominés ce soir. On peut citer Lourdes,
notamment, c'est ça.
Lourdes qui, pendant les pèlerinages, fait des arrêtés anti-mendicité. Mais vous savez, l'imagination, elle est aussi internationale. Hein. Quand je vois qu'une petite ville de Suède donne une autorisation pour pouvoir mendier, il faut payer 15 euros. Voilà, c'est encore une initiative. On est dans le délire le plus total.
Alors, il faut citer donc les catégories. Le pic du dispositif le plus décomplexé, celui du dispositif le plus agressif, du dispositif le plus fourbe, le pic international, qui reviendra peut-être à cette... La Suède. Qu'est-ce qui vous choque le plus parmi tout ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment enlever tout de suite?
Il faut tout enlever. Il faut enlever tous ces grillages. Il faut insister notamment par rapport aux banques qui sont un peu les spécialistes des équipements avec des picots ou autre forme de grillage. Donc ce soir, derrière cette manifestation humoristique, c'est un moyen d'attirer l'attention et de dire qu'on ne peut pas rendre les pauvres invisibles et les reléguer dans des zones de non-droit et de non-humanité.
En préparant cette interview, j'ai cherché, car c'est le rôle de l'intérieur, de trouver un peu de contradiction pour vous opposer quelque chose, mais c'est difficile d'opposer quoi que ce soit. Est-ce que les collectivités ou les établissements qui sont à l'origine de ces installations anti-SDF ont au moins une politique d'accueil d'hébergement, par ailleurs?
Certaines, oui.
Ça serait le minimum.
Certaines, oui. C'est pour ça qu'il y a aussi un prix du plus contradictoire et la catégorie fait ce que je dis, pas ce que je fais. On peut voir, effectivement, sur certaines communes, à la fois une volonté d'ouvrir des structures d'hébergement, notamment en période grand froid, puisque là, ça intéresse tout le monde, et en même temps, reléguer les personnes, les empêcher de s'installer, ce qu'effectivement, avec la Fondation Abbé Pierre et Aimé et Solidarité, on dénonce totalement.
La France compte aujourd'hui 143 000 personnes sans domicile fixe, un chiffre en augmentation de 50% en 10 ans. Moi, c'est un chiffre qui m'a beaucoup surpris, pas vous?
Il est d'autant plus surprenant qu'en fait, c'est le chiffre de 2012. Il n'y a aucun recensement
depuis. Donc, il est certainement...
Parce que c'est compliqué
de faire un recensement, c'est ça, des personnes sans domicile fixe.
Nous, les associations demandent que l'INSEE fasse un recensement. Alors, il y a une initiative de la mairie de Paris la semaine dernière qui a eu de la solidarité. On aura les résultats demain et on saura notamment combien il y a de SDF sur Paris.
Mais pour revenir sur ces dispositifs anti-SDF, est-ce que ça a une contrainte pour les SDF ou simplement ça déplace le problème et ils se mettent juste à côté?
C'est les deux. C'est à la fois une contrainte et puis ils se mettent de plus en plus loin et dans des endroits de plus en plus cachés, ils se mettent en danger.
Et par exemple, ils ne peuvent plus, quand il y a ces dispositifs, se mettre sur des bouches d'aération peu chaudes qui sont...
Il y a des rehausseurs.
Voilà.
Vous savez ce qu'ils pensent de tout ça? Vous avez des retours de leur part?
On travaille avec eux. D'ailleurs, ce soir, en même temps, on lancera, après les pics d'or, la charte des droits des personnes à la rue. Et puis, on fera aussi une opération de collage dans la nuit pour dénoncer d'autres disputes comme ça. Vous savez, on travaille beaucoup avec les structures de représentants des personnes à la rue parce qu'elles sont acteurs aussi de cette dénonciation.
Au chapitre des solutions, tout comme la Fondation Abbé Pierre, vous militez avec Emmaüs Solidarité pour des structures d'accueil dignes et durables. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quels sont les freins? Je sais pas, moi, dans Paris, je vois souvent plein d'appartements avec les volets fermés. On pense à la spéculation immobilière, tous ces logements qui ne sont pas habités. Quelles sont les solutions possibles? Est-ce qu'il y aurait la réquisition de logements? Je ne sais pas. Fin...
Alors, ça peut être la réquisition, mais ça peut être surtout arrêter de traiter ce sujet en fonction de la pression de l'actualité ou des considérations climatiques. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il fait froid, mais on n'en parlera plus dans deux mois. Alors, si je suis tout à fait honnête, il n'y a jamais autant de création de places d'hébergement, mais il n'y a jamais autant de besoins. Donc, il faudrait vraiment qu'on apporte des réponses à la hauteur du nombre de personnes à la rue, d'où l'intérêt notamment d'avoir un recensement.
Merci beaucoup Bruno Morel d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le directeur général d'Emmaüs Solidarité. La cérémonie des Pics d'Or aura lieu ce soir à Paris.
Europe 1, il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient, le soleil persiste.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de l'excellent David Doucan, voici la météo de Céline Dacosta. Une belle journée Céline.
Oui, c'est vrai.
Du soleil pour tout le monde.
Effectivement, belle journée.
journée, grand soleil. On fera juste attention ce matin aux brouillards qui sont nombreux sur la moitié nord. Brouillards givrants même parfois, notamment en région parisienne, mais aussi dans le nord-est. Imprudence sur les routes. Les températures sont froides, surtout dans le nord-est. Moins 4 degrés à Mulhouse. Il en fait moins 2 à Clermont-Ferrand, à Nancy. Moins 1 à Orléans et Tarbes. 0 degrés pour Toulouse, 2 à Lille, à Paris, à Bordeaux et Lyon. 5 à Brest et 8 degrés pour Toulon. Ça va aller un petit peu mieux cet après-midi. Un peu plus de douceur, puisqu'on aura quand même 16 degrés à Biarritz, 15 à Montpellier, 14 à Bordeaux, 13 à Limoges, 12 à Brest, 11 à Bourges et Cherbourg, il en fera 10 à Paris, 9 à Lille et la plus basse, enfin les plus basses en tout cas seront dans le nord-est. On aura 8 degrés à Metz. Soleil pour tout le monde cet après-midi, à peine quelques nuages dans les Ardennes, un petit peu de grisaille aussi dans la vallée de la Saône et puis près de la Méditerranée, mais rien qui ne va gâcher cette belle journée.
16 degrés à Biarritz, on pourra presque surfer pour mais ceux qui
vous
savent
pouvez,
surfer.
Évidemment. Même quand il fait froid, on peut surfer à Biarritz.
Merci Céline. À suivre, ladies and gentlemen, dans une minute seulement, le journal de David Doucet. Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'actu, certes nappées d'une généreuse couche de fantaisie burlesque, mais animées d'une véritable passion pour l'investigation. D'ailleurs, à force de tendre l'oreille aux conversations hors antenne de Céline et Eva, les Catherine et Liliane du News, toujours fourrées sur Google, je me dis qu'on devrait couper l'herbe sous le pied d'Élise Lucet et créer un nouveau programme de référence en matière d'enquête. Notre premier numéro porterait sur cette maison close de poupées gonflables, découverte hier, c'est vrai, hein, par Eva, au gré de ses pérégrinations sur le net. Voici Trocash Investigation.
T'as vu en toute légalité.
Mais c'est parce que c'est des poupées. Ah. Ça se voit, regarde, non? C'est ça,
hein, mais je crois que c'est un robot.
Poupée en silicone.
Ah, oh, Berk.
Non, mais attends, comment il est nettoyant?
C'est dégueulasse.
C'est un peu dégueulasse. On va aller voir ça de plus près.
Mais que reste-t-il à Élise Lucet? Pas grand-chose. Pour le salut du journalisme, je crois qu'il vaut mieux qu'on passe au journal.
Vous écouterez, repas.
Il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Le mouvement des gilets jaunes et ses conséquences sur l'économie. Le gouvernement a mis en place des mesures pour aider les commerçants. Encore faut-il accomplir les démarches administratives, pas toujours simples. Reportage à Bordeaux dès le début de ce journal. Les drapeaux français et européens dans les salles de classe. Les députés ont adopté cette disposition. Reportage dans les écoles à suivre. Et enfin bien sûr, la victoire du Paris Saint-Germain hier en Ligue des Champions. Les Parisiens sont allés damer le pion de Manchester chez eux à Old Trafford. On écoutera la joie des supporters français à la fin de ce journal.
Europe 1.
13 semaines de mobilisation, 72 600 personnes au chômage partiel, 5 000 entreprises touchées, surtout des PME. C'est l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur l'économie, selon les chiffres du gouvernement. Des mesures d'aide existent depuis le mois de novembre, mais ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver face aux différentes administrations. L'association des commerçants de Bordeaux a organisé une demi-journée d'accompagnement. Tous les interlocuteurs étaient rassemblés au même endroit. Notre correspondant dans le sud-ouest était là. Reportage Stéphane Plath.
Bonjour madame, bonjour.
C'est vous qu'il faut que je rencontre.
La directe.
Banque, assureur, mais aussi tribunal de commerce, les impôts, la mairie ou encore la directe réunis dans un même lieu pour recevoir ces commerçants bordelais dont les chiffres d'affaires sont en chute libre. Laure Medjani, directrice adjointe du travail en Nouvelle-Aquitaine, est venue conseiller ces professionnels du commerce qui s'interrogent souvent sur les mesures d'activité partielle.
C'est une population d'entreprises qui n'a pas l'habitude de faire appel aux aides de l'État. Cette initiative permet de faire connaître une mesure que souvent on pense réservée à l'industrie. C'est vrai que l'activité partielle est mobilisée principalement par les entreprises industrielles, mais elle est ouverte à tous les secteurs. Dans le cas précis de la crise des Gilets jaunes, on peut remonter jusqu'au 17 novembre pour indemniser vos employeurs toutes les heures qu'ils n'ont pas été amenés à fournir à leurs salariés.
Les commerçants, les entrepreneurs défilent, passant parfois d'une table et donc d'une institution à l'autre, avec des préoccupations différentes.
C'était me renseigner comment mettre un salarié, si besoin, au chômage partiel.
Moi, je suis venu ici parce qu'on a saccagé mon local. Et là, je pense que je vais devoir, malheureusement, licencier ma collaboratrice si je ne trouve pas une solution.
Environ 200 commerçants, chefs d'entreprise bordelais, ont bénéficié de cet accompagnement, de ces conseils au cours de cette matinée. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Et une nouvelle réunion de crise se tiendra ce matin à Bercy. Élus et commerçants des grandes villes seront reçus par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, justement pour que l'accès aux aides mises en place soit facilité. L'enveloppe globale débloquée par le gouvernement s'élève à 38 millions d'euros. Sachez par ailleurs que la justice a prononcé près de 1800 condamnations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes mi-novembre. novembre. Plus de 1400 autres personnes sont encore en attente de jugement. Chiffre communiqué par le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale. Et parmi les 1400, il y a le boxeur de gendarmes qui est jugé aujourd'hui. Christophe Détinger, qui est toujours en détention provisoire, comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Je vous rappelle que lors du 8e samedi de violence dans la capitale, il avait asséné plusieurs coups à deux gendarmes mobiles qui se sont d'ailleurs constitués partie civile. Le drapeau français et celui de l'Europe seront désormais obligatoires dans les salles de classe, disposition adoptée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi éducation examinée en ce moment. Bonne ou mauvaise idée, le landerneau politique et certains syndicats d'enseignants s'interrogent. Mais qu'en pensent les enfants et les parents d'élèves? Reportage Victor Dolande pour Europe 1.
Nicolas est venu récupérer ses trois enfants à la sortie de l'école. D'origine tunisienne, il est fier de son pays et voit d'un très bon œil ses drapeaux dans chaque classe.
Moi, je suis pour. On appartient à la République, donc il faut respecter ses valeurs. Je pense qu'on doit inculquer ces valeurs-là aux enfants dès leur bas âge pour leur montrer que dans quel pays ils sont.
Son fils, Ramzi, 7 ans, est en accord avec son papa.
C'est bien parce que ça représente notre pays.
Et ne lui parlez pas des paroles de la Marseillaise, il la connaît déjà par cœur.
À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est...
Gaspard, lui, est en CM2 et il a déjà une idée très précise de l'endroit où il pourrait installer ses drapeaux.
Je mettrai le drapeau français avec la maîtresse devant la classe et derrière, je mettrai le drapeau européen.
Au fond de la classe ?
Oui.
Les drapeaux, les parents et les enfants sont plutôt pour. Ça coince en revanche du côté des enseignants. Guillaume est instituteur en CE1.
À la maternelle, je trouve ça plutôt hors sujet, quoi. C'est beaucoup trop tôt. Et puis c'est devant les écoles, ça suffit, on peut en discuter, mais de là à le mettre dans chaque classe, c'est vraiment pas une priorité à mon avis.
Les enseignants que j'ai pu interroger rappellent d'ailleurs que le drapeau et la Marseillaise sont déjà étudiés au primaire.
Victor Dolande pour Europe 1. Le projet de loi santé présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, le texte voulu par Emmanuel Macron et porté par la ministre Agnès Buzyn, vise principalement à réformer les études de médecine et la carte hospitalière.
À suivre dans ce journal, la cavale n'aura pas duré bien longtemps. Le convoyeur qui s'était transformé en voleur a été arrêté. Le butin en grande partie retrouvé. L'enquête se focalise maintenant sur les complicités. À tout de suite.
Il est 6h35.
La suite du journal, David Doucan. Il s'était fait la malle avec son fourgon et avait subtilisé 3 millions d'euros. Le convoyeur a été arrêté.
Oui, le méfait avait eu lieu à Aubervilliers. L'auteur a été interpellé après moins de 2 jours de cavale à Amiens. Deux autres suspects sont aussi entre les mains de la police. Une grande partie du butin de 3 millions d'euros a été retrouvée. L'enquête se concentre maintenant sur les complicités. Pierre de Cossette.
Lorsqu'il a compris qui toquait à la porte de sa planque, un appartement près de la gare, le convoyeur a tenté le tout pour le tout, fuir par la fenêtre. Son aventure a pris fin, un étage plus bas sur le balcon du dessous, arrêté par les gros bras de la BRI de Lille. Des policiers qui planquaient depuis peu devant cet immeuble, où avait-il entendu dire, le fugitif s'était replié. Amiens, ville familière pour le suspect, Amiens où se trouvent des proches et peut-être des complices. Comme cette femme, interpellée alors qu'elle montait dans un monospace chargé de sacs de billets, une partie probable du butin, où cet homme soupçonné d'être l'hébergeur du convoyeur, arrêté un peu plus tard. Depuis hier, les enquêteurs parisiens tentent d'y voir plus clair. Ils ont 4 jours pour interroger les gardés à vue, dont l'employé de la Loomis, donc 28 ans, pour comprendre ce qui a pu le pousser à fausser compagnie à ses collègues lors de la tournée lundi matin avec le fourgon. Savoir aussi dans quelle poche devaient retomber les 3 100 000 euros dérobés à l'aube à Aubervilliers.
Une Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe. Ils l'ont fait.
Ils l'ont fait, et je l'avais dit.
Ils l'ont fait, dites donc. Ils l'ont fait, ils sont allés dans l'antre d'Old Trafford et ils ont sèchement battu Manchester United 2-0, excusez du peu. C'était un match aller de 8e de finale en Ligue des Champions. Les buteurs s'appellent Kimpembe et Mbappé. Le vainqueur s'appelle le Paris Saint-Germain. Il y aura bien sûr un match retour le 6 mars. Mais en attendant, les supporters savourent, un peu comme vous Mathieu, écoutez... C'est quelques fans interrogés hier à Paris après le match par Jean-Gabriel Bourgeois.
C'est complètement inattendu comme score et je pense que Mbappé, il a vraiment pris ses responsabilités. On voit deux champions du monde marquer et ça fait plaisir parce que ça fait aussi un peu revivre ce qu'on a vu avec l'équipe de France cet été. Et donc ça fait plaisir de voir le PSG comme ça.
On avait du mal à y croire, il y avait une mauvaise ambiance quand même avant le match avec les blessés. On nous avait mis un peu le doute et finalement notre entraîneur et les joueurs ont fait leur grand match. Bravo les gars, bravo, on verra le match retour. On est bien parti.
Il y a un match retour, mais 2-0 quand même à l'aller à l'extérieur. Ça vaut plus que les 4 buts qu'on a mis à l'aller contre le Barça avant la remontada.
le mot remontada, il n'existe pas en anglais, non ?
les réactions. Les
oui,
réactions.
Le mot remonting existe.
Ouais, remontada n'existe pas en anglais. C'est vrai que le Paris Saint-Germain avait subi une terrible remontada face à Barcelone, bien sûr, on s'en souvient tous. Ces réactions de soir de victoire, c'est toujours très, très sympa, ont été recueillies par Jean-Gabriel Bourgeois.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste toujours sur la brèche, toujours réactif, toujours prêt à improviser, car Dixit lui-même...
Moi, l'impro, j'adore. Hein. Ah là là.
Hélas, nul n'est infaillible et David a beau être extrêmement exigeant avec lui-même, traquant presque maladivement la moindre répétition dans ses textes, ah oui. Il y a des jours où il n'est pas à la hauteur de ses propres exigences.
Et député s'apprête à s'engager dans un numéro d'équilibriste pour atterrir sur un texte équilibré. Aïe, aïe,
aïe. J'ai bien aimé le numéro d'équilibriste pour aboutir à un texte équilibré.
Ah merde, je suis crevé.
Reposez-vous bien, mon champion.
Vous êtes d'une cruauté.
Surtout que vous êtes en pleine forme.
Non, mais vous êtes, oui.
Vous êtes revenu au top.
Vous êtes, vraiment, votre attitude est de plus
public.
En plus déplorable.
Vous êtes au top.
Parce que, non, mais vous savez que ça me fait mal.
Oh
hein, une répétition dans un texte, il n'y a rien qui m'horripile plus.
Rien de pire
vous me faites mal, vous êtes
c'est
sadique.
Ah,
vous êtes
sadique. Je suis une ordure. Reposez-vous bien, mon champion. Passe au temps avec l'équilibriste du cumulonimbus, Céline Dacosta. Un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et Rénoval nous offre généreusement un immense soleil jusqu'à la fin de la semaine.
Exactement, et vous avez tout résumé. On fait attention quand même aux brouillards qui sont nombreux ce matin sur la moitié nord. Parfois givrants même, hein, notamment en Ile-de-France et dans le nord-est. Après dissipation de ces brouillards, ce sera du soleil, vous l'avez compris, pour tout le monde. Juste quelques nuages peut-être cet après-midi sur les Ardennes, la vallée de la Saône ou près de la Méditerranée. Les températures sont fraîches ce matin. Ça va considérablement se radoucir cet après-midi puisque la moyenne sera de 9 à 16 degrés du nord au sud.
Merci Céline et Varoc.
C'est la journée mondiale de la radio. On vous a demandé depuis ce matin, 5h, un souvenir qui est lié à Europe 1. Et bien sur Twitter avec l'hashtag Europe 1, Quentin nous a dit « J'ai découvert Europe 1 il y a 15 ans grâce à ma maman qui était déjà très fidèle. Mon premier souvenir, c'est le rire de Laurent Ruquier et de sa bande. Et puis les voix passionnantes de Franck Ferrand. Et puis un été, ma maman m'a fait découvrir Europe 1 midi avec le duo Maxime Switek et Jean-Michel Apathy et toute l'équipe. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour vous. Et depuis, ils nous écoutent. Merci pour tous les messages que vous avez pu nous envoyer ce matin.
Merci
infiniment.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui fait rimer journalisme et bonne humeur sans jamais toutefois tomber dans la niaiserie. Hein. On reste journaliste avant tout.
Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
Oui bon, parfois on craque. À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin ils éclairent l'actu sous un jour nouveau, spécialement pour vous. Les Trois Fantastiques arrivent au programme, un documentaire exceptionnel à ne pas rater ce soir à la télé. Les Hollandais de KLM en guerre contre Air France et Emmanuel Macron placé devant une nouvelle obligation, renouveler son équipe.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Paris est magique, disait la chanson, et c'est pas faux, ils l'ont fait. Victoire du PSG hier soir à Old Trafford, ils ont battu Manchester United 2-0. Match aller en 8e de finale de la Ligue des Champions, les buteurs s'appellent Kimpembe et Mbappé. Match retour le 6 mars au Parc des Princes. Le convoyeur de fond a été arrêté, la police l'a interpellé à Amiens et placé en garde à vue. Il avait subtilisé 3 millions d'euros dans le fourgon qu'il conduisait. Deux autres suspects sont entre les mains des enquêteurs qui essaient maintenant d'établir d'éventuelles complicités. Enfin, le projet de loi santé est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte voulu par Emmanuel Macron et porté par la ministre Agnès Buzyn vise principalement à réformer les études de médecine et la carte hospitalière.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Quand ils sont réunis chaque matin vers 7h moins le quart, c'est un peu Céline là.
Liga des champions.
Oui, c'est ça. Voici les Trois Fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie, Axel dont on fête aujourd'hui le non-anniversaire. Pour une simple et bonne raison, ben oui. C'est qu'on a oublié son anniversaire qui était hier. Oh. Voici donc pour fêter à retardement l'événement du Galak.
Ah ben oui.
Le chocolat idéal pour celui qui fut, ne l'oublions
mais
pas,
oui, le
dauphin d'or du meilleur journaliste économique
dauphin,
en 2003.
Je peux en prendre une, j'adore.
Oui. Un dauphin qui a pris cher hier durant la météo de Nikos, qui lui n'avait pas oublié son anniversaire. Découvrant son âge, Céline Dacosta a eu un choc qu'elle n'a pas réussi à masquer. Elle a ensuite sorti les rames pour tenter de se rattraper. C'était mais trop non. tard.
Bon, Axel de Tarlé, bon anniversaire déjà.
Bon anniversaire.
Bravo. T'as quel âge ?
49.
Ouais, c'est pas rien. Ça va, vous les faites pas, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. Il y a l'âge réel et il y a l'âge ressenti. Ça existe.
Oui, joyeux anniversaire quand même, Axel.
Axel. Et on démarre. On démarre comme d'habitude par la politique, les amis, avec vous, Mickaël Darmon. Le départ annoncé du conseiller spécial Ismaël Emelien n'est pas anodin. Une mue s'opère à l'Elysée en même temps que la recherche de solutions à la crise politique.
Alors si l'on feuillette l'album photo des équipes au pouvoir, eh bien on arrive dans la période où on commence à compter les visages qui ne sont plus là. 2 ans d'Elysée, ça use énormément. Au même stade, les équipes de Nicolas Sarkozy changeaient, idem pour celles de François Hollande. Fatigue, lassitude, divergence et parfois aussi envie de poursuivre son chemin. Eh bien le départ annoncé d'Ismaël Emelien coche les cases. Certes, on sait que sa mise en cause dans l'affaire Benalla peut inciter à prendre du champ, mais il ne faut pas minorer les raisons de fond. Emelien l'enchanteur, le patron des mormons de Macron, l'intello tendance ermite, c'est pas seulement une légende savamment entretenue, c'est aussi un moteur chez ce jeune homme aux convictions de gauche, persuadé qu'il faut rompre avec les codes anciens de la politique et qu'il faut aussi sortir du système tous les plus de 45 ans. Problème, c'est justement sur ces méthodes à l'ancienne que Macron s'appuie pour relancer son quinquennat. Le président va vers ce système qu'il prétendait rejeter à une époque et c'est aussi en cela que le chemin avec son proche conseiller se sépare.
Est-ce que ça confirme que les débats ne sont pas tranchés pour les solutions d'après-crise ?
Après les réflexions sur le référendum couplé avec le scrutin des européennes, voilà que certains conseillent au président de ne pas faire de référendum du tout, quand d'autres lui préconisent au contraire deux consultations populaires. Ismaël Emelien, lui, va publier un livre sur le progressisme. Est-ce une manière de rappeler à Macron comment revenir dans le chemin de ses promesses ? Eh bien, effectivement, la question est posée. Faut-il taxer le capital, en finir avec les niches fiscales pour les plus riches ? Toutes ces questions agitent les esprits et les couloirs au sommet de l'État. Quoi qu'il en soit, d'autres départs sont prévus dans le cabinet présidentiel. Un renouvellement des équipes du président déclenché depuis le début de l'année. Eh bien, c'est à cela qu'on reconnaît aussi l'acte 2 d'un quinquennat, quand les photos des temps triomphants virent au sépia.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. J'essaie d'actionner la bougie pour l'anniversaire d'Axel de Tarlé, parce que figurez-vous,
non, mais je vais la souffler.
C'est une bougie musicale, mais ça ne marche pas.
Ça va déclencher la larme
d'incendie. Alors, allons-y, soufflez votre magnifique bougie.
Voilà.
Non, non.
Voilà, ah bah,
c'est attention, c'est un événement en
retard.
Axel de Tarlé a soufflé.
Et voilà, voilà. Et j'ai 49 ans, donc, oui. Et un jour, mais je ne l'ai fait pas.
Et là,
pas
je peux vous
tout,
dire,
vous
voyez
tout,
qu'on
Axel.
A mis le budget pour cet anniversaire, voilà. Axel. Vous pouviez nous faire confiance. On passe à l'économie avec vous, Axel. Enlevez-moi cette bougie. Après Renault Nissan, l'alliance d'Air France KLM bat de l'aile. Les salariés de KLM menacent de faire grève pour dénoncer l'hégémonie d'Air France.
Là, parce que vous savez, Air France a un nouveau patron qui vient du Canada et donc il a un œil neuf de Canadiens qui est peu au fait, des susceptibilités entre Français et Hollandais. Et donc, quel est le projet de ce nouveau patron canadien d'Air France ? Eh bien, c'est d'unifier les deux compagnies Air France et KLM, vous voyez, de casser les baronnies, de faire qu'il n'y ait plus qu'un seul management. Et donc, notamment, il veut casser la baronnie des Hollandais. Mmh. Vous savez qu'ils font un peu ce qu'ils veulent au sein d'Air France KLM. Et donc, notamment, le patron de KLM, Peter Elbers, qui a très bien réussi, est menacé, clairement menacé, il pourrait ne pas être conduit à la tête de KLM. Mais c'est très mal vu aux Pays-Bas, qui voient une mainmise des Français, et donc les salariés de KLM menacent de faire grève. Vous avez même le ministre des Finances hollandais qui est monté au créneau pour défendre le patron hollandais de KLM. Et voilà, voilà où on en est. Et cette affaire, au fond, elle révèle les rancœurs des Hollandais contre les Français. Parce que c'est vrai, KLM est deux fois plus petit qu'Air France, mais KLM fait l'essentiel des profits de Air France KLM, bah oui c'est la vérité, et donc les Hollandais de KLM ont l'impression d'une alliance déséquilibrée au profit des méchants Français qui en plus veulent prendre totalement les commandes.
Dites Axel, de vous à moi, ça rappelle l'alliance Renault-Nissan.
Eh ben exactement, c'est exactement la même histoire, les Japonais de Nissan qui ont l'impression de faire, ce qui est vrai, de faire l'essentiel des profits, alors que les méchants Français, eux, ne travaillent pas beaucoup et veulent prendre la direction. Eh ben cette affaire, alors qu'on pourrait, pour défendre les Français, on pourrait, un, rappeler d'abord que l'alliance bénéficie aux deux, et puis deux, qu'à un moment, ils étaient bien contents, les Hollandais et les Japonais, de trouver les Français qui sont venus les sauver, c'est pour ça, comme ça d'ailleurs qu'ils sont rentrés au capital. Mais au fond, cette affaire montre, au-delà des susceptibilités, que c'est très dur en matière d'entreprise de rester éternellement fiancé et qu'à un moment, pour passer l'épreuve du temps...
Il faut se marier.
Et ben voilà. Ça vaut uniquement pour les entreprises.
J'ai bien compris, Axel. Ne regardez pas
je
ne
veux pas
ça.
Faire le moralisateur.
Ça marche. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Alors, deux choix. Un pour commencer, c'est une série pour ados, a priori, mais qui mérite d'être regardée par le plus grand nombre, qui s'appelle De Max à Maxine, qui est une fiction anglaise en 3 épisodes diffusée sur Sister. C'est l'histoire de Max, 11 ans, qui n'est pas franchement à l'aise dans son corps de garçon et qui ne veut qu'une chose, être appelé Maxine. Sa mère et sa sœur vont l'aider dans cette transition, contrairement à son père. Il fallait de la finesse et de la justesse pour aborder ce sujet. Et c'est le cas. Et c'est à voir sur
Arthur Sister. Et puis, je voulais absolument vous parler d'un programme que Canal Plus diffuse ce soir, encrypté, un documentaire choc. Michel Perard, journaliste à Paris Match et ancien otage des talibans, est parti à la rencontre de 7 autres personnes qui ont été retenues par les FARC en Colombie, par Al-Qaïda en Afrique ou encore par les talibans en Afghanistan, comme Pierre Borgie, otage pendant 4 mois et 10 jours, dans un trou creusé à même la terre, impossible de bouger, un plongeon dans l'obscurité et la déshumanisation.
L'obscurité, c'est dur parce que t'as pas de repère. Tu sais jamais si tu dors, si t'es réveillé, si t'as les yeux ouverts, si t'as les yeux fermés. Et ce que je fais, c'est que je me bande carrément les yeux pour plus voir le noir, quoi, pour avoir une raison physique de pas voir, quoi, un truc. Arrêter d'essayer de faire le focus, d'essayer de trouver un point lumineux parce qu'il y a rien à voir. En fait. Effectivement, le trou, ça te déshumanise, ça fait partie de la méthode globale pour me briser. C'est pour garder quelqu'un de malléable, de calme, qui fait pas de problème.
Et alors Pierre Borgie a fini par s'évader. Il se retrouve dans les salons feutrés de l'ambassade de France et comme d'autres otages, il va raconter alors la découverte de son visage devant la glace.
C'était pas moi. Non. En tout cas, c'était un gars qui était pas en forme, quoi. Ça, c'est sûr. La personne que j'ai vue dans le miroir, elle m'a ému. Elle est fatiguée. Sale, surtout.
Un film exceptionnel par la qualité des entretiens menés qui ne tombe jamais dans le pathos ou le sordide, mais qui révèle les mécanismes de survie communs à tous, hein, humanitaires, journalistes, touristes, leur difficulté aussi à reprendre une vie normale, la culpabilité qui les ronge parfois. C'est des témoignages face caméra qui ont permis à ces femmes et à ces hommes de se réapproprier leur histoire jusqu'alors confisquée par les médias. Il y a une poésie dans leurs mots, dans leurs regards et cette capacité à résister. Le tout servi par une réalisation esthétique rare, avec en guise d'illustration des images sublimes des lieux où ils vivent aujourd'hui, ces anciens otages, et qui font figure de paradis, des plaines enneigées du Vermont au rivage des Méditerranées en passant par la Toscane. C'est vraiment le documentaire à voir et c'est sur Canal+, à 21h, ça s'appelle Otage.
Merci beaucoup Eva Roque, merci Axel de Tarle et Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à sa fin, l'heure du débrief potage de la matinale de Nico Saliegas arrive. Avec en filigrane cette question, le débrief sera-t-il aussi drôle que la vanne de François Hollande relayée par Axel de Tarlé à la cérémonie des trophées de l'avenir lundi soir?
Les pompiers de l'Indre ont dit oui, c'est bien qu'on parle de nous parce qu'on est dans l'Indre, une région un peu oubliée, un peu isolée. Et là François Hollande a dit l'Indre, le département des isolants, mais pas isolé.
Ça va pas être simple, mais je vais tout faire pour.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, mais c'est un mal pour un bien, puisque le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliegas. Bonjour mon cher.
Salut camarade, bonjour. J'aime bien quand vous me réveillez.
Je vous réveille. Tous les matins, Nikos, le playboy grec, le 38e pilier de l'acropole, comme on le surnomme dans son pays, qui hier a marqué un coup d'arrêt en termes de drague avec son premier vent. Tout s'est joué très vite. Céline Kallmann, la présentatrice du journal 7h30, est entrée en studio. Nikos a tenté une approche fine, comme à son habitude.
Bonjour Céline, vous êtes belle en noir.
Ah ouais.
Et oui, le coup est rude pour le 38e pilier. Heureusement, s'il est un domaine où la compétence de Nikos n'est pas émoussée, c'est indéniablement sa force de vente, comme on dit dans les séminaires de commerciaux. Nikos n'a pas son pareil pour vendre les différents protagonistes de cette matinale. Sa devise, too much is never enough. Trop n'est jamais assez. Les camelots du marché de Ménilmontant n'ont qu'à bien se tenir.
Vincent Herouette, parce qu'il a horreur des inepties. Précision, analyse et distance, c'est tous les jours sur Europe 1. Je vous ai fait la totale. Comme lorsque j'accueille Audrey Crespo-Marin et qui arrive dans le studio et qui voilà, remplit toute sa lumière et son énergie. Non, n'en jetez plus.
Les cirages Aliaga, le garanti d'un brillant extra.
Absolument.
Alors attention, c'est fluide, ça fonctionne, mais c'est toujours précisément quand on est en confiance que l'on commet des erreurs. Exemple type, tenter de consulter une page Wikipédia pendant qu'on présente la matinale pour essayer de se la péter, genre on connaît plein de mots.
J'ai un petit boîtier magique qui aide à se rappeler le nom de toutes les personnes que l'on rencontre.
Vous savez que c'est une maladie aussi ça, hein, quand on connaît sans être capable de mettre un nom. Ça s'appelle la prosopagnosie. Prosopagnosie plutôt.
J'ai traduit du grec ancien.
Mais...
Il le traduisait du grec ancien, évidemment.
C'est alors, du pipeau, j'entends. C'est du pipeau.
C'est un petit peu du pipeau. Attention également au terme de collectif, les amis, à bien vous synchroniser les uns les autres. Par exemple, quand l'un décide de partir dans un délire, ok, mais il est préférable que les autres restent, eux, relativement concentrés sur le déroulé de la matinale afin que la situation reste quand même compréhensible pour l'auditeur. Situation surréaliste hier où tout, absolument tout s'est mélangé. Les vannes de Nikos, les digressions capillaires de Laurent Cabrol et les sponsors météo de Céline Dacosta.
Et Laurent Cabrol arrive avec ses dreadlocks.
Vous savez que la chute des cheveux, c'est la seule maladie où il n'y a pas de recousse.
Et la météo ?
Bob Marley chauve, ça l'aurait pas fait, hein, je te le dis.
C'est avec Rénoval, Nikos. Profitez d'un temps toujours bah clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine.
Mais alors là, on est con. Attention,
vous êtes bien placé pour délire. Savoir que le sponsor, on l'oublie.
Le délire, chacun
son
tour. Temps,
c'est pas grave, la vanne est plus importante éditorialement. T'aurais pu le passer plus tard.
Que le sponsor, mais oui.
Merci les sponsors. Merci Mathieu Noël.
On embrasse Rénoval.
Le sponsor du rire avec Eva Rock et de l'info.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.